Podcast.
C'est l'épisode 36.
36.
On pourra littéralement dire aux gens, non mais c'est super bien comme émission, il y a 36 épisodes dessus. C'est en mode, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a vraiment 36.
Ah oui, on a littéralement parlé de 36 trucs. Ouais. Ouais.
J'en ai parlé un peu au boulot et mes collègues que je salue ici, enfin pas tous, ils se reconnaîtront, étaient impressionnés par le nombre d'épisodes justement. Ce qui rejoint ce que tu disais sur le fait que beaucoup de podcasts se lancent, font un ou deux épisodes et ça s'arrête là.
Oui, la durée moyenne d'un podcast, c'est un. C'est con, mais la plupart des podcasts ne survivent pas à leur premier épisode.
Dans le même ordre d'idée, Adrien m'a appris que 50% des entreprises ferment au bout de 5 ans, des nouvelles entreprises.
Et je crois que 5 ans, c'est aussi à peu près, si ma mémoire est bonne, la durée moyenne d'une acquisition en France.
Ah.
T'achètes ton appart et tu revends en moyenne après 5 ans. Il y a un truc. Mais la recette, elle est... Enfin, le secret est assez simple. Hein. Y a un événement dans nos calendriers, puis on se pointe. Enfin, c'est pas très compliqué, quoi. Tu sais, ça demande pas un talent particulier. Ça demande juste toutes les semaines avant et puis toutes les deux semaines maintenant de se mettre devant un micro et de blablater pendant 2 heures.
Ouais, ce qui est déjà ce qu'on fait plus ou moins par SMS, ce qu'on faisait par SMS auparavant, et je crois que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. On peut pas se forcer, je pense, à créer quelque chose, ou alors c'est vraiment difficile d'avoir cette discipline pour quelque chose dont on n'a pas vraiment d'affinité, quoi. Là, il faut, c'est juste une formalisation de ce qu'on faisait déjà, dans un sens.
Oui, je suis pas sûr qu'on aurait pu créer ça ex nihilo, mais si tu veux, ça demande pas non plus de forcer notre naturel. C'est comme quand tu veux apprendre à jouer d'un instrument, quoi. Si tu te mets pas devant ton piano une heure tous les X jours et que tu joues pas, tu vas pas progresser.
Ce qui m'ennuie beaucoup au passage, hein. Je trouve ça vraiment très injuste. Personnellement, j'aimerais bien progresser sans rien faire.
Ah, moi aussi, j'adorerais. Ce serait beaucoup plus simple. Mais c'est comme, enfin, les gens qui se demandent pourquoi on arrive à écrire autant qu'on écrit chez MacG ou sur nos blogs respectifs. Mais on est 8 heures par jour devant un clavier. Au bout d'un moment, une fois que t'as fini d'épuiser le web, il te reste plus grand chose à faire que d'ouvrir ton éditeur de texte et de taper, quoi. Donc, fais ça pendant quelques années. À la fin, tu commences à savoir à peu près écrire et tu commences à peu près à maîtriser ton sujet, et bon.
C'est la mère de Lady Gaga qui l'a forcée à rester une heure tous les jours devant le piano, même si elle jouait pas. Juste une heure devant le piano, comme ça, tous les jours.
Ouais, je crois pas que ce soit beaucoup plus compliqué que ça à la fin. Ce qui est insurmontable, quelque part, parce que si tu n'as pas cette heure, que ce soit,
oui,
même psychologiquement, hein, si quand tu rentres chez toi, t'es crevé et tu peux pas t'offrir ce temps, c'est mort. Mais enfin, c'est pas un truc surhumain, quoi. Ça demande pas un talent, ni un talent d'organisation, ni un talent inné particulier, quoi. Je veux dire, on n'est pas des personnalités de la radio qui faisons ça depuis 20 ans, quoi. Mais
pas encore. Voilà,
pas encore. Mais le simple fait de se poser devant un micro, bah, au bout d'un moment, le micro a envie qu'on parle dedans, donc puisque l'outil a une volonté, maintenant je change d'avis.
Un changement très intéressant dont on discutera, je pense, mais ouais, qui me fascine un petit peu. tu imagines bien.
Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce que tu as regardé cette semaine?
Eh bien, j'ai regardé deux choses. Alors, je triche un peu ces deux choses en une seule. Je suis allé au cinéma avec Adrien voir Encanto, et au début, il y avait le court-métrage. Enfin, normalement, il y avait le court-métrage Far From the Tree. En l'occurrence, on l'a pas vu au cinéma, donc je l'ai téléchargé vilainement pour le voir ensuite. Et ce qui m'a frappé, c'est que en 5 minutes environ, il y a un concentré d'émotions plus intense et plus efficace qu'en une heure et demie de film. Donc je dis pas que Encanto est mauvais, je dis que Far From the Tree est supérieur. Et dans Encanto, évidemment, on peut retenir une très bonne BO qui est presque un personnage à part entière, parce que derrière, t'as Lin-Manuel Miranda, le mec derrière Hamilton.
Mm-hmm.
Quelque chose de très efficace. Et même si on parle pas de Bruno, finalement, c'est quelque chose qui se retient très bien. mais ouais, c'était pas mauvais, c'était pas non plus ultra bon, c'était rigolo. Mais le petit court-métrage vaut le détour. Je crois que c'est Nathalie Nouriga qui l'a écrit et réalisé. Et c'est vraiment un court-métrage à l'ancienne, sans aucun dialogue. Ça fait du bien de voir ça. C'est dessiné à la main aussi, bien sûr. Ça, c'est chouette.
J'ai vu la BO de Encanto sur Apple Music.
Ouais.
Et je me demandais, est-ce que je l'écoute avant de voir le film. Toi, il y a parfois des BO, tu peux les regarder sans le film quelque part. Il y a,
ouais.
D'ailleurs un nombre incalculable de BO que j'écoute et que j'ai écouté en boucle pendant des années sans avoir vu le film auquel elle se rattache. Je me demande si ça va pas être le cas avec ce film-là.
Il y a beaucoup de films comme ça, effectivement, que j'ai, dont j'ai écouté la BO avant même de les voir, même sans les voir parfois. Et genre Inception, que j'ai toujours pas vu, tu vois, par exemple. Et je connais la BO, mais j'ai pas vu le film. Et je pense que c'est pas mal parce que, surtout plus. Enfin, pour moi, plus le film est un peu attendu, ou alors sinon complexe et dense, plus je m'attends à ce qu'il soit dense, plus me familiariser pardon, avec la BO m'aide à me repérer quand je le regarde et me permet de mieux prêter attention à ce qui se passe, à l'action, parce que la musique est déjà un terrain connu. Du coup, c'est cette espèce de fil rouge, tu vois, qui me guide un peu dans le film.
Oui, je vois l'idée. Puis comme en général, les BO sont bien faites, il y a des motifs, des choses comme ça, tu peux aussi... Enfin, quelque part, t'as une... avant même d'avoir vu la moindre image, t'as une carte musicale du film dans la tête.
Exactement.
Moi, j'ai vu des choses beaucoup moins musicales. j'ai vu la nouvelle saison d'Archer... avec un air un peu mélancolique, parce qu'on sait que Jessica Walter, qui joue la mère d'Archer est morte. Donc c'était officiellement sa dernière saison. J'ai aussi vu Afterlife avec Ricky Gervais.
Tu veux dire Ricky Gervais, c'est ça?
Ricky Gervais. oui, mais à chaque fois que je dis Ricky Gervais, ça me fait penser au petit Suisse. Et,
Le mec, il a un nom de yaourt, il n'y a plus rien, c'est comme ça. Hein. Enfin, à un moment, il faut assumer, quoi.
Mais j'avais vu la petite scène où il menace de tuer un gamin coup de marteau. Et ça m'avait... Je m'étais dit, oui, enfin bon, c'est le truc habituel, je vais pas regarder. Et puis là, il y avait rien sur Netflix, parce qu'il y a jamais rien sur Netflix, évidemment. Je me suis dit, je vais me le faire, c'est 3 saisons, 6 épisodes, c'est une série britannique, c'est super bien pour ça. Et en fait, c'était vachement bien. C'est assez subtil sur le deuil, la dépression, des choses comme ça. Alors évidemment... les grosses ficelles habituelles, et puis c'est pas sérieux du tout, mais c'était pas... Enfin, ça vaut mieux que cette petite scène, quoi. Et puis j'ai vu Inside Job aussi sur Netflix, qui est un dessin animé sur la réalité du gouvernement américain, qui est dirigé par une cabale de reptiliens. et c'était vraiment très bien. Il y a des grosses vibes Rick and Morty, mais en moins chiant. Notamment peut-être parce que c'est une héroïne plutôt qu'un héros, donc ça change. Et non, c'est vraiment sympa. Pareil, c'est le genre de truc où... tu regardes ça quand t'as fini, quand t'as épuisé tout le reste de Netflix. Mais c'était pas mal.
Mais du coup, c'est un documentaire ou une fiction?
Écoute, parfois tu te demandes. Il y a un truc.
Sur Ricky Gervais, tu vois, je pense que je regarderai pas parce que j'ai un a priori assez négatif. Enfin, pas sur la personne, parce que... Si, sur la personne aussi. Mais c'est que... son cynisme me fait peur un peu à chaque fois. Il me rebute un petit peu. J'ai toujours l'impression qu'il va... qui s'amuse à détruire les choses.
Dans ce cas, je confirme, tu peux pas regarder Afterlife. C'est incroyablement cynique. Enfin, c'est très moi. Et effectivement, c'est pas du tout toi. Oui, non mais oui.
Je vais rester sur.
Il faut dire les choses comme ça.
Je vais rester sur Encanto alors. Voilà, ça te dérange pas.
Écoutez donc.
Écoutez, j'ai eu l'heure. C'est le bonheur, mais sans le bon. Mais c'était quand même un bonheur, c'est pas que ce que je veux dire, c'est que c'était quand même bien, mais je voulais juste dire de manière un peu recherchée. J'ai eu l'heure de voir Fantasia en live à la Philharmonie de Paris avec Adrien, c'était pour son anniversaire, c'était le 27, bon anniversaire à lui, wouh. Et c'était ma première fois du coup à la Philharmonie, j'étais déjà allé pour une expo, mais là c'était la première fois que j'entrais dans l'auditorium vraiment, qui est très beau, très jolie couleur, forme, un peu organique, c'est plutôt impressionnant et en même temps très intimiste. C'est très bizarre. Il y a beaucoup de monde dedans, mais tu les vois tout près.
Oui.
La notion des distances est un peu floutée, du coup, comme ça.
Elle a un côté ramassé, cette salle, qui me trouble
énormément. Ouais, c'est très troublant, c'est ça. Ouais. Et en plus, je crois que c'est dû au fait que, notamment, les gradins sont très avancés dans la scène. Et notamment, nous, on était sur la catégorie 2 parce qu'on est presque... On est pseudo-riche, mais en fait, quasi pauvre. Mais pas trop entre les deux, voilà, catégorie 2 quoi. Et on était placé pour le coup assez idéalement, vraiment sur le balcon, mais premier rang du balcon. Et du coup, c'était derrière le piano qui était vraiment enfoncé dans l'orchestre. Donc bien dans l'orchestre, quoi, dans le son, c'était chouette. Et c'était vraiment, c'était très bien. Alors, je préfère largement Fantasia 2000 parce que c'est mon côté réac. Je suis désolé, mais la 3D, ça marchait pas à l'époque, ça marche pas plus aujourd'hui.
Non, mais j'adore Fantasia 2000, et Fantasia 2000, c'est pas que la 3D. Il faut revoir le passage sur Rhapsody in Blue.
Oui, pour le coup, qui est bon, c'est vrai. C'est vrai.
Qui est magnifique, et je dis pas ça uniquement parce qu'il y a du violet partout. mais c'est quand même la séquence qui a causé le retard de Tarzan. Hein. C'était tellement difficile, tellement complexe chromatiquement, qu'ils ont mis le budget et les hommes et les machines là-dessus. Et ils ont repoussé Tarzan. Ça vaut mieux que la critique un peu facile sur les clips 3D dans Fantasia 2.
Ouais.
Franchement.
Bon.
Mais Fantasia est très bien.
Mais je suis heureux de l'entendre dire.
L'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre, ça c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, tu as raison. Donc ouais, c'est vraiment très chouette. C'est très dur de faire quelque chose de synchronisé, hein, évidemment. À l'écran, le film à sa vitesse, et quand c'est vraiment synchronisé comme ça... Parce que c'est au tempo, quoi. Vu que les actions à l'écran suivent la musique, naturellement, c'est le principe de Fantasia. C'était très compliqué pour l'orchestre, mais qu'ils s'en est bien sortis.
J'adore les ciné. On a la chance à Lyon d'avoir un orchestre qui est spécialiste du ciné-concert. Et j'aime beaucoup... tu sais, il y a deux écoles chez les chefs d'orchestre, ceux qui sont sur la mesure et ceux qui sont devant la mesure. Et en ciné-concert, en général, quasi tout le temps, le chef d'orchestre est devant
la
mesure.
Ouais, là, c'était le cas aussi. Hein.
Ce que j'adore, c'est voir un chef d'orchestre qui saute et le bruit vient. J'adore le ciné-concert pour ça, parce que quelque part, c'est super facile à suivre, parce que tu peux regarder le chef d'orchestre et tu sais ce que tu vas entendre. Et puis, enfin, techniquement, c'est quand même fantastique, quoi, parce que tu sais que la moindre milliseconde de retard, qui d'habitude est compensée parce que l'orchestre est ce truc magnifique qui sait quand il est en retard et qui est capable de se gérer tout seul, là, c'est pas le cas, quoi. C'est super carré, mais en même temps, très... Très organique aussi. J'adore le ciné-concert pour ça, vraiment.
En fait, c'est ça. Il y a le spectacle à deux endroits, à la fois sur l'écran et dans l'orchestre, bien entendu. Et même trois endroits, presque, parce que le chef d'orchestre est lui-même son propre spectacle. Donc, non, c'était vraiment très chouette. Évidemment, dans le concert, il y avait l'apprenti sorcier. Et j'ai pas pu m'empêcher, en bon vieux con, de voir le parallèle avec la technologie et la magie utilisée pour... quelque chose de trop puissant qu'on essaye d'utiliser pour un tout petit truc et qui se retourne contre nous, quoi qu'on fasse derrière. C'était un peu rigolo. Et tout ça finit par un coup de balai au cul, et c'est bien mérité. Mais à côté de ça, j'ai écouté le nouveau Saint-Vincent, Saint-Vincent, qui s'appelle Daddy's Home, qui n'est pas si nouveau que ça d'ailleurs, il y a quelques mois déjà. Il a été produit par Jacques Antonoff, que je suis beaucoup, parce qu'il a produit notamment Lana Del Rey, enfin un de ses albums qui s'appelle Norman Fucking Rockwell. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Enfin, le métier producteur me fascine, parce que comment tu combines ta vision à celle d'un artiste, et comment tu en fais quelque chose de supérieur à la somme des parties, enfin de supérieur aux parties elles-mêmes, quoi. C'est toujours fascinant de voir ça, et surtout que c'est un style très différent. Enfin, pour le coup, Saint Vincent, même si c'est de la pop, ça reste une pop très différente de Lord, de Lana Del Rey, de tout ça. Donc il y a une virtuosité dans la production que j'aime beaucoup. Après, j'ai un goût personnel qui fait que Saint Vincent a une espèce de sensualité, hein, qui est presque violente et qui me met presque mal à l'aise de mon côté. Donc moi, je préfère les Lolita comme Ariana Grande, tu vois, donc j'ai écouté, mais je vais pas réécouter. Mais c'était bien quand même.
Tu vois, parfois, toi et moi, on n'est pas d'accord.
Ah ouais.
Ça arrive.
tu préfères pas Ariana Grande, toi.
Moins. Bizarre.
Ça, c'est très étonnant.
Moi, qu'est-ce que j'ai écouté ? J'ai écouté My Name is Sheba de Candace Springs. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette espèce de confluence du jazz et du hip-hop avec, dans cet album, une grosse, grosse touch soul. Mm-hmm. J'ai aussi écouté Plex par Phaser. Et là, pour le coup, c'est du jazz avec une touche d'électro et de pop expérimental et d'afrobeat. Et de plein d'autres trucs, et c'est pas trop mal, je crois. Et puis je suis tombé complètement par hasard sur c'est le hasard complet des suggestions d'Apple Music, qui par ailleurs a été réécrit dans macOS 12.1, et il faut applaudir Apple d'avoir fait le job, parce que ce ne sont plus des vues web, mais c'est du code natif. Et ça devient fluide, et genre on peut revenir en arrière sans perdre sa position, genre c'est bien,
c'est,
quoi.
C'est moins non réactif, j'ai trouvé.
C'est ça, c'est moins non réactif, c'est la bonne façon de le dire, effectivement. Et donc, au hasard des suggestions d'Apple Music, dans lesquelles tu peux maintenant naviguer sans déprimer, je suis tombé sur une série de petits hippies par le Enzo Orefice Trio, qui s'appelle Talking About Jazz. Et c'est pas, alors c'est pas du jazz super compliqué, hein, c'est du jazz de club, quoi. Mais j'aime bien cette tendance aux hippies thématiques. C'est le guitariste Pasquale Grasso qui avait fait ça ces 2 dernières années, où il avait pris des standards, il faisait des petits hippies de standards de jazz à la guitare. Et bah quelque part, on revient un peu avant l'album, quoi, aux années 50 et 60, avant que l'album devienne ce truc conceptuel super compliqué. Et là, non, on fait juste des petits machins, bah voilà, on a enregistré 3 titres, ou 4 titres, ou 5 titres. Et puis c'est tout. Enfin, on a fait ça. Et puis voilà. Et je trouve intéressant que les plateformes de streaming travaillent le format musical, et on voit à quel point l'album s'effiloche, et je crois pas que ce soit mal.
Je suis d'accord avec toi. Et autant la granularité extrême du single par single, moi, me rebute un petit peu. Autant les EP, je trouve que c'est vraiment un format assez idéal, en fait, et qui permet d'exprimer beaucoup de choses avec une certaine concision. C'est un exercice très difficile, quand même, au final. Et je trouve ça intéressant, ouais.
Oui, et puis quelque part, t'as pas besoin. Enfin, souvent dans des albums de 12 pistes, il y a 4 pistes achetées parce
Exact.
que bah il fallait aller jusqu'à. Enfin, il fallait remplir le CD, quoi. Il fallait remplir tes 74 minutes. Et là, non, quoi.
Anthony
Si
Adel,
t'as.
c'est ça,
Mais si t'as rien à dire de plus que 5 morceaux, bah voilà, quoi, c'est fait. Et c'est bien. Et je dis pas qu'il faille arrêter de faire des albums, hein. J'adore le format album. Mais si t'as rien de plus à dire, autant pas faire de remplissage, quoi. Et là, ça marche plutôt bien. À la fin, sur un an et demi, ils ont sorti 5 petits EP, donc 25 morceaux. Et c'est chouette, quoi. J'ai encore écouté ça cet après-midi. C'est pas très compliqué, mais ça s'écoute bien.
Cool. Mais alors, tu vois, tu as utilisé ton ouïe, Anthony. Mais qu'as-tu lu?
Les transitions deviennent de plus en plus complexes dans ce podcast. J'ai fini The Vanishing Half par Britt Bennett, et c'était très bien. Et ce que je trouve fascinant, en fait, je m'observe en tant que lecteur ces derniers mois, et je trouve que les livres me motivent des critiques, et me motivent de belles critiques. Et plus je lis de la fiction, plus j'ai l'impression d'être capable de sortir un peu plus de moi, et de tirer des critiques qui viennent des tripes, quoi, de pas être dans l'analyse, mais de venir chercher des trucs complètement inattendus. Enfin, quand tu lis ce bouquin qui est sur une paire de jumelles noires, mais à la peau très claire, et l'une décide de se faire passer pour blanche, et l'autre se marie avec un mec très très noir, et décide de revenir dans son village d'enfance, tu fais pas immédiatement le lien avec Janus et les Romains, et ce que Janus dit de l'Antiquité romaine et du Moyen-Âge et de la construction d'identité européenne. C'est pas un lien évident, mais c'est un lien qui m'est venu, tu vois. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant de lire en ce moment. Parce que ça me fait écrire. Et dans le même genre, j'ai lu Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Ma prononciation japonaise est parfaite, j'en suis
Je crois
certain.
aussi.
Et c'est pareil, c'est un livre tout mignonnet sur un café où tu peux remonter dans le temps à condition de suivre tout un tas de règles. Une des règles les plus importantes étant que tu ne peux rester dans le passé que tant que le café est encore chaud. Et donc quand ton café est froid, il faut finir de le boire, sinon tu restes coincé. C'est choupinou comme tout, et pareil, j'ai commencé à écrire une critique, et je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais absolument pas d'où ça vient, et c'est fascinant, vraiment.
Ouais, ça en dit beaucoup, à la fois très peu et beaucoup sur la manière dont on fonctionne. C'est-à-dire que alimenter ta partie un peu créative qui est vers la fiction, en fait, te permet de restituer ça sous forme analytique.
Oui, En fait, pendant très longtemps, j'étais incapable de lire un bouquin sans être dans l'analyse tout de suite. Mais parce que voilà, enfin, j'écris, donc j'aime écrire et j'aime voir les gens écrire. Et où là, j'ai l'impression que depuis quelques mois, je suis capable de faire les deux. Je suis capable d'être dans la fiction. Et ça, il y a un truc qui tourne, mais qui tourne en arrière-plan, quoi. Et à la fin, quand j'ai fini le bouquin, ça ressort, et ça ressort de manière complètement foutraque, quoi. Lire, c'est bien.
Lisez plus. Faites pas comme moi, faites comme Anthony.
Qu'est-ce que tu n'as pas lu?
Qu'est-ce que je n'ai pas lu? Je, la liste est trop longue, donc je vais juste me concentrer sur l'article que j'ai lu. Enfin, j'ai lu deux, trois trucs, mais c'était le seul qui m'a laissé un peu un souvenir, on va dire. Qui s'appelle Bureau et espace de travail de Jonathan Lefebvre, qu'on salue ici. Je suis beaucoup dans une phase actuellement de consommation sur Instagram des Reels. Et celles dont je suis le plus friand sont les Reels de Coréens ou Coréennes qui montrent leur bureau avec plein de trucs kawaii dessus. Et les femmes nord-américaines de 30-40 ans qui montrent comment organiser leur maison. Et c'est deux choses qui m'obsèdent, mais au plus haut point. Et
le point commun étant la quantité de plastique que ces gens utilisent, exact, pour emballer des produits dans des emballages, exact, dans des suremballages et des resuremballages.
Ouais, c'est fantastique. Et, et surtout, en l'occurrence, il n'y a que les femmes nord-américaines qui font ça, c'est transformer ça en argument écologique. Parce que tu achètes des trucs, mais après tu les ranges dans des trucs en plastique. Donc tu n'as pas l'emballage, tu l'as acheté, donc c'est écologique, tu comprends.
C'est vrai.
Donc j'ai cette espèce d'obsession, je pense que c'est aussi lié au post-travaux, tout ça, enfin, une espèce de besoin de réinvestir l'espace, parce que, mine de rien, j'ai remarqué que j'étais mal à l'aise pendant les travaux, à cause, non pas parce que l'espace passait, mais parce qu'il y avait des gens dans la maison que, pendant longtemps, quoi.
Oui.
Et les pièces n'étaient plus vraiment à moi, donc ça me gênait un peu. Et c'est là que je me rends compte que je suis vraiment un ours. Et du coup, cet article-là, pour y revenir, m'a donner la liste de ce que Jonathan utilisait au quotidien pour son boulot. Et c'est très exhaustif, et ça m'a donné des idées d'organisation, et ça m'a rappelé que c'est extrêmement important d'avoir quelque chose qui fonctionne pour toi, et que ça se façonne avec le temps. L'outil n'a pas vraiment de sens, je pense, dans ce contexte-là, parce que c'est une suite d'outils qui font l'outil. Et du coup, c'est ça qui fait que ça le façonne au fur et à mesure du temps. Et je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir de temps en temps, c'est salutaire, à mon avis.
Oui, l'environnement de travail.
Ouais, c'est ça.
Enfin, l'atelier, quoi.
C'est exactement ça. Je pense que l'atelier lui-même est un outil, en fait, hein, c'est un point. Ouais, ouais.
Oui, tu le vois d'ailleurs. Pour revenir à The Vanishing Half, elle a une phrase superbe où elle dit revenir dans une ville dans laquelle t'es pas venu depuis longtemps, c'est un peu comme si on avait pris ton appartement et on avait tout déplacé de 30 cm.
Ah, terrible.
C'est familier. Ouais. Tu sais que t'es chez toi, mais en même temps, tu vas te mettre des grands coups dans les jambes avec la table basse, quoi.
Ouais.
Et l'atelier, c'est ça, quoi. Tu déplaces quelque chose dans l'atelier. T'es toujours dans ton atelier, mais ça casse. Pareil dans ton bureau, quoi. Quand tu installes un nouveau truc ou quand tu désinstalles un truc, soudainement, il y a cette période intérimaire pendant laquelle tu sais plus vraiment où t'es. C'est assez étrange, ouais.
Et à propos d'outils, justement, qu'est-ce que tu as acheté récemment? Tu me parlais d'un pied de micro.
Et ben, justement, j'en parle d'expérience. J'ai acheté, j'adore le titre de l'affiche Amazon. Elgato Wave Mic Arm LP, perche de micro haut de gamme compact avec passe-câble, pince pour bureau, fixation polyvalente, entièrement réglable. Idéal pour podcast, streaming, jeu, télétravail.
Ah oui, rien que ça, ouais, tout un programme.
C'est fabuleux.
C'est un programme électoral quand même, ça aussi, je pense.
Mais donc c'est un pied de micro qui est fait pour passer sous l'écran, c'est fait pour les streamers de jeux vidéo là sur Twitch, de manière qu'on voit pas le pied. Et donc c'est ça se peint sur le bureau, c'est constitué de deux bras, donc il y a un point d'articulation entre les deux bras, et d'un côté tu as la fixation pour le bureau, de l'autre côté tu as la fixation pour le micro. Et l'idée, c'est de pouvoir... Il y a donc une articulation entre les deux bras. Tu peux monter le micro à ta bouche. Et l'idée, c'est d'avoir un petit micro USB comme la plupart de ces gens-là en ont. Sauf que moi, j'ai un Rode NT1, donc un micro de radio, quoi, qui est monté sur une araignée avec un filtre anti-pop, donc un truc qui est grand, quoi, qui doit faire quasiment 30 cm en tout. Donc, sans utiliser les articulations du bras, le micro est à la hauteur de ma bouche. Du coup, ça fait quelque chose d'extraordinairement compact, qui est dans un coin du bureau, je le vois plus, et où, comme on peut passer les câbles, il y a un système assez intelligent de passe-câbles magnétiques, donc avec des petits capots magnétiques qu'on peut...
ajuster comme ça.
Oui, avec des petits capots magnétiques qui se mettent sur le bras et on fait passer le câble en dessous. Bah, du coup, le micro reste maintenant vissé sur son bras, le câble XLR est dans le bras et enroulé au pied du bras, et j'ai juste, maintenant pour enregistrer, à sortir... la petite interface USB et brancher le câble XLR. Ça m'a quand même vachement simplifié le bureau. c'est vachement plus propre. C'est 100 fois plus rapide de s'installer pour faire une télé-réunion ou au hasard enregistrer un podcast. Et oui, enfin, ça me... Du coup, je réinvestis mon bureau, quoi. J'ai un peu plus de place qu'avant. Et tu te dis, alors, attends, du coup, mon clavier, il va où? Mon téléphone, je le pose où? Le chargeur, le machin, le truc mûche. Tu sais plus vraiment où t'es. Et c'est aussi l'occasion de te demander, mais à quoi ça sert?
Oui.
Où est-ce que... Qu'est-ce que je dois brancher? Qu'est-ce qui doit rester branché? Qu'est-ce qui doit pas rester branché? Pourquoi ce truc est là? J'ai fait tomber 3 ou 4 fois ma tasse de thé, au point d'ailleurs d'avoir noyé un clavier que je devais tester. Donc tu te dis, pourquoi? Qu'est-ce qui a entravé mon mouvement depuis que le pied est là pour faire tomber ma tasse de thé? Enfin, c'est assez amusant à quel point un tout petit truc comme ça... Puis on parle d'un bureau, quoi, c'est pas un truc très compliqué, quoi. Mais à quel point un tout petit changement derrière a d'énormes conséquences, quoi. Et va entraîner d'autres changements en cascade, probablement, dans les prochaines semaines.
On peut dire que c'est les battements des ailes gâteaux du papillon? Un peu trop loin. Ok, on enchaîne.
Si les auditeurs et les auditrices ont soudainement envie de mettre non plus 5 étoiles à ce podcast, mais 2, je pourrais...
Bah écoute, 2, c'est presque la moyenne, moi je prends. Ne mettez pas 2, je vous en supplie, mettez 5. Écoute, je vais peut-être faire cette acquisition-là aussi de mon côté. J'avoue que le Yeti, là, il est bien, mais il est sur son pied mastoc en fonte. Et c'est toujours un peu une tannée pour le sortir, le remettre, et ça prend de la place. Donc peut-être qu'effectivement, un pied de micro comme ça, c'est une bonne idée. Et de mon côté, bah, anniversaire oblige, j'ai acheté un cadeau. Et ce cadeau a pris la forme d'un produit que j'ai vu sur Instagram, comme je te disais tout à l'heure. Et donc c'est un petit ordinateur. Enfin, ça prend la forme d'un ordinateur. C'est un écran avec des pixels dessus. Tu vois, et tu peux dessiner ce que tu veux, tu peux télécharger des trucs qui bougent, ça donne l'heure, ça fait haut-parleur Bluetooth, ça peut faire le téléphone si tu veux, enfin c'est génial. Et donc il y a deux séries de 3 touches mécaniques qui font un petit bruit très satisfaisant quand tu appuies dessus, qui servent à jouer comme à Tetris par exemple, tu vois, dessus. Et c'est très kawaii, c'est américano-japono-chinois, parce que derrière il y a aussi une application chinoise extrêmement complexe avec... tu sais, la police en très petit, qui n'est pas du tout la police système, avec plein d'options partout, tu comprends rien. C'est très mignon.
Je dois dire que c'est très cute.
C'est vraiment mignon.
Pour les gens qui nous écoutent, le lien sera dans la description. C'est cutissime.
C'est cutissime.
90€ quand même, ton truc.
Il est toujours en promotion, donc vous pouvez le trouver à 70€ facilement. Voilà, je préviens. Même si c'est cher quand même, je suis d'accord. Voilà, c'était mon achat coup de cœur de ces 2 semaines.
T'as pris quel coloris?
Rose.
Rose, d'accord. Ça va, je vais aller. Ouais.
C'était pour un cadeau, donc ça va, c'est pour Adrien. Donc moi, j'aurais pris gris, évidemment, tu me connais. L'iMac est gris. je pense que j'aurais pris rose aussi pour moi, j'avoue.
Ah non, faut aller... quitte à être dans le truc inutile mais cute, faut aller jusqu'au bout de la démarche, quoi. Faut
oui.
Pas...
Faut assumer assumer. Oui.
Écoute, puisqu'on parle de trucs mignons, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me travaille depuis longtemps. Et c'est la manière dont la technologie nous parle, le ton de la technologie. C'est quelque chose qui m'est venu notamment à cause de l'Apple Watch et les petites notifications qu'elle t'envoie régulièrement quand tu obtiens des trophées ou quand tu remplis tes objectifs. Et j'en ai un peu marre qu'on me dise « Ah, super, t'as explosé ton score » ou « Waouh, t'as fait vachement de trucs aujourd'hui ». Et je vois l'idée, quoi. L'idée, c'est de rendre la machine sympathique. Mais ça me semble à peu près aussi artificiel que... je vais être obligé de dénigrer les gens de ton espèce, que les gens... qui travaillent dans le domaine du service client et qui t'envoient des messages tout faits, quoi.
Ouais.
Qui prétendent avoir écrit des courriers électroniques, alors que pas du tout. C'est des modèles générés par la machine et où ça reprend automatiquement ton nom et ils ajoutent une phrase, quoi. Et évidemment, la seule phrase qu'ils ont ajoutée, c'est celle où il y a des fautes d'orthographe. Et j'ai presque envie d'un curseur de formalité, quoi. Dans Antidote, dans le correcteur, tu as des curseurs pour ton niveau de langage, pour ton niveau de formalité. Tu peux dire « je parle français de France » ou « français de Belgique » ou « français du Canada ». J'ai presque envie, au moins pour Siri, quoi, de pouvoir dire non, non, j'aimerais que tu me vouvoies, vraiment, s'il te plaît. Ou non, super et waouh, non, non, c'est bon.
C'est un point très intéressant, je trouve. Ça me rappelle, tu te rappelles quand tu es venu à Paris pour les fêtes et qu'on a pris le tram
Oui.
et qu'à chaque arrêt du tram, tu avais un jingle différent, répété par des
C'est
voix
vrai.
différentes. Et clairement des voix qui sont pas des gens professionnels du doublage, hein, c'est des gens, je pense, qui ont été choisis sur concours, peu importe quoi. Et
Et où du coup,
ouais.
quand tu es comme moi, tu n'es pas venu à Paris depuis longtemps et c'est la première fois que tu prends ce morceau de la ligne T3,
Exact, T3.
tu ne comprends pas, tu rates ton arrêt parce que tu ne comprends pas ce que la personne a dit. Parce que c'est la 15e voix différente avec le 15e jingle différent
C'est ça.
et
Et
mince.
t'avais fait observer quelque chose qui m'est resté, qui est que quand on essaie de fixer la spontanéité comme ça, on la tue.
Ouais.
Et
Oui.
c'est pareil pour, je pense, le comment dire? Si on essaie de recréer les espèces d'aspérités sympathiques humaines, pareil, on échoue systématiquement parce que la machine n'est pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui peut être fixé, justement. C'est quelque chose de. Enfin, les papillons, tu vois, si tu les épingles et ils meurent, quoi, tu vois, c'est ça. Ouais,
Bah,
simplement.
je faisais la réflexion qui me semblait évidente, et c'est pour ça que j'étais surpris que tu sois surpris, mais que ça me paraît un peu antithétique de vouloir organiser la spontanéité. Enfin, c'est comme, j'ai toujours détesté les sorties scolaires, les exercices de team building quand je travaillais dans des vraies entreprises. Enfin, non! Non, enfin, soit c'est spontané, soit ça l'est pas, quoi. Il n'y a pas de... Tu peux... Non, la spontanéité organisée, ça... Non, juste non.
J'étais pas surpris, ça m'a révélé quelque chose, ça fait un déclic. Et je suis d'accord avec toi là-dessus, malheureusement, désolé de te le dire, hein, je suis d'accord avec toi. C'est que et je crois qu'effectivement on retrouve beaucoup ça dans la culture startup aussi, notamment, enfin le tout le côté happiness manager, tout ça, enfin c'est la même veine, quoi.
Ouais. Et du coup, je crois que ça dégouline sur le produit.
Ouais, exact.
C'est-à-dire qu'à un moment, c'est tellement intégré, ça n'est plus juste un gimmick de RH qui pense que c'est comme ça qu'il faut manager parce que virer quelqu'un, c'est mieux en souriant.
Avec des emojis.
Alors que promis, non. Et on se dit, bah, puisque c'est mieux ce qui reste à prouver dans le management, bah, finalement, les utilisateurs, c'est des gens qu'on doit manager. Quand tu fais du service web, finalement, tu vois tes utilisateurs comme une masse à manager à travers ton service. C'est ce qui est un ressort psychologique un peu tordu, quoi, mais je crois que ça explique aussi une partie des soucis qu'on voit avec les services dans le nuage et avec les logiciels aujourd'hui. C'est qu'on prétend vouloir intermédiariser l'expérience d'utilisateur jusqu'à prédire son comportement, on le voit avec les algorithmes de recommandation, et on essaie de le micromanager jusqu'à conditionner ses choix, l'empêcher de faire des trucs imprévus. Et au final, ça casse parce que dès qu'il sort des rails, l'app plante. Parce qu'il y a un truc qui a pas été prévu, une structure de données qui a pas été prévue. Et paf, ça casse. Parce que à tant vouloir faire des interfaces ultra polies, on les rend ultra peu résilientes parce qu'on les rend fixes. On les rend très très peu flexibles.
Non
Alors
évolutive.
que. Ouais, alors que les logiciels d'avant, ils étaient beaucoup plus malléables, ils étaient parfois plus moches, ils étaient parfois moins efficaces. Mais justement, à force de vouloir rationaliser, on rend les choses moins résilientes parce qu'elles sont moins résistantes à l'imprévu. Et donc pareil, quoi, on organise la spontanéité. Et je crois que c'est ça, quoi, ces cultures d'entreprise qui dégoulinent sur le produit parce qu'on pense que l'utilisateur se manage comme n'importe quel péon de base dans une entreprise. Et je crois pas qu'il faille manager des péons de base dans les entreprises, et je crois pas qu'il faille manager les utilisateurs.
Ouais, c'est un peu la différence qu'on peut remarquer entre bah, le système d'étagère d'éditeur RAM, ce que tu veux acquérir, et IKEA, quoi. C'est un peu le même principe. C'était non.
Oui, quelque part, oui.
Mais ce qui me. Alors, je vais faire de l'analyse vraiment sociologique de niveau CE2, attention.
Écoute, on est là pour ça.
On est là pour ça. Mais tu parlais tout à l'heure d'un meeting politique, pardon, auquel tu t'es rendu. Et est-ce que tu trouves pas des similitudes entre. la manière dont est conçue l'application ou le système qui justement essaie de guider ou au moins de prévoir les réactions de certaines choses, et la technologie, quoi, et genre le système en fait. Est-ce que c'est pas un peu. Genre, même une photo. Je vois par exemple Macron pose des photos des fois, genre là il a coché un truc, genre passe culturel fait, je sais plus trop quoi, bon, et tout le monde se moque de ça. Mais est-ce que. Dans quelle mesure, tu vois, c'est pas quelque chose qui est prévu aussi? Et dans quelle mesure c'est pas un stimulus qui permet de créer la réaction attendue, quoi? C'est peut-être un peu trop bête.
Non, non, tu m'embêtes.
Ah, pardon.
y a un fin.
Et je caricature quand même beaucoup là.
Retenez bien ce moment parce que c'est rare que je doive réfléchir avant de répondre à Arnaud. Parce que normalement, il sait prédire ce que je vais dire, donc il me lance. Et là, le con, il me force à réfléchir.
Désolé. En plus, c'est
Si,
mardi.
si, mais est-ce que c'est pas parce que ce sont des approches systémiques? C'est-à-dire qu'organiser un meeting politique, c'est quelque part organiser la spontanéité. Tu as un chauffeur de
Tout à
salle,
fait, ouais.
tu as un déroulement de meeting, tu as un déroulement de discours qui sont conçus pour faire monter la pression jusqu'à qu'on envoie le candidat sur scène. Et le candidat sur scène, il déclenche des émotions en utilisant des figures de style imposées. Je notais dans le cadre, dans le cadre de ce meeting dont on discutait avant d'enregistrer, de l'anaphore par exemple, et de la manière dont on peut utiliser le rythme pour provoquer les applaudissements et pour faire monter la pression dans la salle, et ensuite utilise le volume sonore de ta voix pour convaincre de manière presque physique, quoi. Et donc ce que tu dis importe presque moins que la manière dont tu le dis, quoi. Et quelque part, c'est un peu pareil avec. Avec Siri, quoi, ou avec les notifications de l'Apple Watch. Ou elle pourrait me dire, l'Apple Watch, de manière très plate, t'as marché 12 000 pas aujourd'hui. Elle pourrait juste me dire ça. Et non, elle se sent obligée de me dire, waouh, c'est vachement bien, t'as marché 12 000 pas aujourd'hui, Anthony. Super, j'espère que tu vas faire la même chose
Avec
demain.
les
C'est
attelles
pas
et
tout à fait
tout, ouais,
pareil.
c'est tout un show en plus de feux d'artifice quand tu complètes tes cercles. Ouais.
Je crois pas que ce soit tout à fait pareil, quoi.
Mais une deuxième question qui me venait à l'esprit comme ça, alors pareil, on est encore niveau CE2, donc attention. Mais est-ce que le fait d'habituer l'utilisateur, on va dire, c'est un terme dégradant, mais j'utilise quand même, l'utilisateur pour, enfin, à ses réactions, à ses stimulus. Est-ce que c'est pas quelque chose qui justement va quand même le former, l'informer au final, et le forcer à essayer de retrouver cette expérience ailleurs, et à ne plus, tu vois ce que je veux dire?
Si,
Être dépendant de ça.
oui, je le crois, et c'est ce que je crains.
Ouais.
Parce que t'as les vieux cons comme moi qui trouvent ça insupportable, mais t'as les gens qui se disent ah, mais, un truc tout bête, mais encore l'Apple Watch, mais le matin, quoi, l'Apple Watch qui te dit non, mais hier t'as explosé ton score, essaye de rééditer la performance aujourd'hui. C'est puéril. Ça marche.
Moi, un des aspects sur lesquels la technologie nous parle plutôt mal, mais quand c'est la technologie qui nous parle, évidemment, c'est les gens derrière qui parlent mal, parce que il y a une certaine, c'est très étrange, il y a comme une dissociation de leur état d'humain. C'est que en général, dans la tech, et surtout dans les startups notamment, j'ai remarqué, c'est que tu as une conscience de l'humain qui est extrêmement étroite et particulière, de niche. Et c'est pour ça que les startups en général échouent, je pense. C'est que elles s'adressent à une sorte de fantasme qui est pas réel, quoi.
Oui, l'utilisateur
Ouais, c'est
type.
ça. La persona, pour parler en
Ouais, la
marketing.
persona,
Ouais.
voilà, ça m'a. Ouais.
J'ai appris ce terme et je déteste un petit peu. beaucoup. Parce que le nombre de sites, et ça, je parlais de startups, mais il y a aussi des sites très anciens. Je pense à la sécurité sociale, je pense à des trucs comme ça. Où l'expérience de l'utilisateur, si on veut parler en termes techniques, est désastreuse. Quelqu'un qui n'est pas grand, qui n'a pas grandi dans cet univers, déjà quelqu'un qui a grandi dedans a du mal à trouver ce qu'il cherche. Je pense aussi des banques, je pense aussi des assurances, tout ça. Et j'ai aidé une amie à retrouver des papiers de retraite parce que elle était perdue là-dessus et je l'aide parfois pour des dépannages et tout. Et en fait, c'est inhumain, quoi. Genre, elle cherchait littéralement une information qui était quelque chose qui lui revenait de droit, un montant qui lui était versé comme ça tous les mois. Et elle n'a jamais réussi à le faire toute seule. What the fuck, quoi. Enfin, c'est chaud, c'est chaud. Et l'exemple récent que j'ai en tête, c'est SNCF Connect. Désolé pour les développeurs, mais franchement, c'est une catastrophe. Je veux dire, à quel moment tu t'es dit que pour aller d'un point A à un point B, il fallait un seul formulaire, quoi, un seul champ de texte. C'est absurde, absurde. Et du coup, tu es obligé de rater consciemment, tu vois, le première recherche pour arriver au formulaire avec les deux champs de recherche.
Ouais.
Allô, quoi.
Ou à quel moment tu te dis qu'une application doit être en permanence avec du texte blanc sur fond noir.
Oh, Seigneur. Oui, accessoirement ça aussi.
Parce que c'est évident que tout le monde a une vue 20 sur 20, avec un écran plus lumineux que 3000 soleils. Mmh. Enfin. Mmh. Mais t'as écrit un truc dans les notes que je vois sous mes yeux. Tu as écrit un truc qui me... C'est ça, quoi. Se tromper est humain, l'erreur de la machine est inhumaine.
Je suis un peu content de ça, j'avoue. Ouais. C'est vrai.
C'est vachement bien. Je dois... Voilà. Et j'avais écrit, c'est assez marrant parce que j'ai écrit presque pareil. L'an dernier, j'avais commencé à écrire un article que j'avais appelé « Chronique de l'autoritarisme techno-administratif ».
Oui, j'aime beaucoup déjà. Là, j'ai des frissons sur le bras, là.
Et où ça venait de deux tweets, où je disais « Les dysfonctionnements des systèmes d'information des opérateurs / banques / impôts / SNCF / services publics, et surtout l'asymétrie dans le rapport à la panne,
ouais.
Je dois me déplacer et prouver ma bonne foi. » me rendre chèvre. Mm. Et je disais, je vais finir par écrire des chroniques de l'autoritarisme techno-administratif. Mm. Et je complétais en disant, si je me trompe, je risque la pénalité ou l'amende, notamment dans le cas des impôts, voire pire. Par contre, s'il se trompe, c'est à peine s'il s'excuse. Mm. Et le service client peut rien faire, vous comprenez, c'est la machine, monsieur. Le nombre de fois que j'ai entendu ça, c'est la machine, je peux rien faire. L'humain est broyé par l'informatique. Mm. Et je disais, je trouve ça proprement effrayant. Et j'avais complété ça en écrivant deux petites histoires, et j'ai continué à écrire ces petites histoires à chaque fois que je suis confronté à ça. Je vais me permettre de les lire in extenso, parce qu'après tout...
Vas-y.
Je commande un billet de train en ligne. Le billet ne peut pas être imprimé en gare. Le billet peut être imprimé à la maison, mais premièrement, je n'ai pas d'imprimante. Et deuxièmement, la page du site de la SNCF censée afficher mon billet reste désespérément blanche. Le billet peut être affiché dans l'application Oui SNCF, donc maintenant SNCF Connect, mais elle ne fonctionne plus depuis plusieurs mises à jour sur certains types de téléphones. Bref, pour la première fois de ma vie, et j'ai voyagé plus d'un demi-million de kilomètres en train, j'ai dû arrêter le contrôleur pour qu'il retrouve mon billet sur son appareil, qui ne fonctionnait pas. Heureusement que ma carte de presse et l'horaire fort matinal l'ont convaincu d'accepter ma confirmation de commande. Il y a quelques années, j'avais écrit SNCF, syndrome du Nelson complètement fou, bah c'est un peu ça, tu vois.
Excellent.
Et le deuxième petit truc que j'avais écrit, c'était « J'ouvre un compte en banque professionnelle pour les besoins de l'association Zinzolin, dont tu es membre et qui édite ce présent podcast. La banquière crée un accès en ligne avec un mot de passe. Après deux tentatives de connexion à mon espace personnel, je comprends que cette opération a grillé mon propre mot de passe. En déverrouillant mon téléphone pour retrouver le code envoyé par SMS, l'application de ma banque restée au premier plan tente de m'identifier et grille définitivement mon mot de passe personnel. Le site de la banque ne permet pas de remettre soi-même son mot de passe à zéro. La procédure automatisée ne reconnaît ni mon nom de naissance, ni mon nom d'usage. Nelson Santos, tu comprends, le tiret entre les deux, c'est compliqué.
Très compliqué.
Nous sommes samedi, je dois envoyer des factures et faire des virements, mais la banque n'ouvre pas avant mardi. Je ne peux même pas faire mes courses en ligne puisque le deuxième vecteur d'authentification de ma carte bancaire est l'application. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Hein. Orange, qui, quand j'ai commandé une multisim, m'a grillé ma sim principale. J'ai été obligé de rééditer une sim à mes frais en allant en boutique. Parce que quand j'ai essayé de résoudre le problème, ça a suspendu ma première ligne. Mmh. Au moment même où j'étais en train de discuter avec un conseiller.
Ah oui, donc en pleine conversation, toc.
Et je ne sais pas pourquoi, ça s'est réglé magiquement en quelques heures. Et tu es là face à la technologie. Enfin, je ne suis pas un débutant, quoi. et tu es là face à la machine. Et même quand tu as un humain, l'humain te dit « Non, mais je ne peux pas. C'est la procédure, monsieur. Non, mais la procédure... Hein ? Procédure ? Mais tu peux pas appuyer sur un bouton ? Mais c'est la procédure, monsieur. Je peux pas faire. Vous rentrez pas dans mes cases. Non, mais je m'en fous de rentrer. Enfin...
Il y a un syndrome aussi, là, je pense, qui est intéressant. Je sais pas si c'est ça qui joue, mais c'est ma théorie, en tout cas. Tu sais, c'est le syndrome du pouvoir minimum donné qui monte à la tête.
Oui.
Tu vois ? C'est,
Oui.
Notamment, j'ai remarqué ça, c'était assez tragique dans des gens qui, quand j'étais chez Apple, passait de payon spécialiste, donc vendeur comme moi, à soit expert, soit manager, enfin donc un rang un peu au-dessus dans la hiérarchie. Et c'était les pires, quoi. C'était les pires. C'était des compagnons de galère, entre guillemets, parce que c'est quand même la commune, ça peut la récréer quand même l'Apple Store. Hein. Mais bon, c'était des compagnons de galère auparavant, et ils deviennent des tortionnaires, en fait, encore plus motivés que les autres.
Mais ouais.
Et je crois que on abandonne très volontiers une partie de l'humanité quand on est aux commandes ou au moins dans l'illusion de la commande d'un petit pouvoir. Et c'est la technologie, il n'y a rien de tel. La voiture fait le même effet, bien sûr. Mais la technologie, il n'y a rien de tel pour remonter à la tête très rapidement.
J'avais écrit cet été sur. J'avais passé le TOEIC. Pour une raison que j'ignore toujours, mais bon, je m'étais dit. On avait passé 4 heures dans un amphithéâtre sous 30 degrés en pleine canicule sans avoir le droit de conserver une bouteille d'eau, un éventail, enfin, et sans même pouvoir changer de masque. Donc tu transpires à grosses gouttes dans un amphithéâtre, tu bon, bref. Et donc j'avais un peu hurlé, on m'avait dit, bah oui, mais ce sont les règles de TS, vous comprenez? Donc bon. Et les examinateurs te disent, hein, ce sont les règles de TS, elles sont mauvaises. Mais il les applique quand même. Et j'avais écrit à l'époque que Lord Acton se trompait, quoi. Le pouvoir, le véritable pouvoir, ça corrompt fort superficiellement. C'est pas le pouvoir absolu qui corrompt absolument, quoi. C'est la soumission absolue qui corrompt absolument. La courbure volontaire de l'échine. J'ai un tout petit pouvoir. J'ai courbé l'échine pour avoir un tout petit pouvoir, mais du coup j'ai le droit de manier le fouet. Et ça corrompt absolument. Et donc, quant à quelques individus qui sont complices d'un mécanisme d'oppression et qui rejettent ça sur la faute de la machine, eh bien, ils deviennent un engrenage indispensable à l'existence de cette machine.
Bien sûr.
Google, quoi. Google qui fait Google Duplex pour dire la machine va répondre à des appels à votre place. Vous allez pouvoir lancer la machine pour qu'elle prenne un rendez-vous chez le coiffeur. Donc tu vas, au lieu d'utiliser un esclave, c'est-à-dire, avant c'était simple, on avait des esclaves. L'esclavage est illégal. Donc maintenant, on fabrique des esclaves, qui sont des esclaves logiciels ou des esclaves robotiques, ou une caste de sous-fifres payés à la tâche, ubérisés, on dit.
Oh, Seigneur, oui.
Mais ça, quoi.
Oui.
De fait, on a recréé cette classe corvéable et taillable à merci, et on a créé des esclaves logiciels, ces fameuses intelligences dites artificielles, qui vont donc passer à ta place un coup de fil pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur, c'est-à-dire que ce sont des instruments d'oppression pour represser des minorités déjà oppressées. C'est-à-dire qu'on fait de l'oppression au carré,
C'est
quoi.
ça. Tu parlais de Janus, mais c'est ça, c'est des esclaves et des maîtres en même temps. C'est parce que on se soumet
Incroyable.
à eux aussi, effectivement, alors qu'ils sont censés rendre service à la base.
Merde, quoi. Enfin, je trouve ça proprement effrayant, quoi. Quand je m'arrête et que j'y réfléchis, je trouve ça proprement effrayant. Et ma montre qui me dit, super, t'as marché 12 000 pas hier, vraiment, aujourd'hui, refais la même chose, quoi. Et cette petite piqûre de dopamine pour conditionner ton comportement, quoi. Marche plus, gros porc. Enfin, au moins, ce serait plus clair, quoi, je veux dire.
Oui. Je crois ne pas me tromper en me disant que y a une application qui a essayé ça, le langage un peu plus persuasif.
Oui, c'était Carrot Weather
C'est ça.
et toute la série des applications de ce développeur, qui pour le coup sont très bien.
Oui.
Parce qu'au moins, c'est très honnête.
C'est ça. C'est intéressant ça parce que est-ce que c'est pas dans une espèce d'outrance que l'on retrouve l'humanité qu'on avait essayé de fixer auparavant en étant très sympathique et lisse? Je pense que le problème, c'est que la technologie est méchante
Elle est méchante par
par
bienveillance.
bienveillance.
Attends, être bienveillante,
Exactement.
elle est méchante, elle est
C'est ça.
cruelle.
C'est ça. C'est ça.
Tu sais, c'est comme les parents qui disent à leurs enfants, tu les entends dans les supermarchés, si t'es pas gentil, t'auras pas de dessert, si t'es pas gentil, t'auras pas de cadeau à Noël. Et puis merde, quoi, je suis plus un gamin, je crois plus au Père Noël, donc pourquoi est-ce que je devrais prétendre que je suis un enfant et que je crois dans la mère Siri?
Ouais, franchement, Siri, juste ta gueule.
Mais oui!